Fragmentaire sur Radio Gameuse avec nous.
Quand je pousse la porte de la Lune en parachute, l'exposition n'est pas encore tout à fait là. Ou peut-être qu'elle est déjà en train de se faire. Il y a du bruit, des outils, des voix qui se croisent. L'odeur de peinture fraîche, le va-et-vient des artistes encore au travail. Au milieu de cette effervescence, les premières formes apparaissent. Une grande structure de bois qui s'élève, des couleurs qui filtrent à travers les fenêtres de toit, des cibles de paille percées de flèches. Ciel, ruisseaux, racines, ici, tout semble déjà circuler, du sol au regard, de la matière au geste. Les artistes que je rencontre se connaissent depuis longtemps. Tous passés par les Halles d'Épinal, ils se retrouvent aujourd'hui, 15 ans plus tard, pour exposer ensemble leur chemin, leur pratique, leur devenir.
Bonjour, je suis Delphine Gatinois, je suis artiste plasticienne, je vis dans les Vosges, à côté de Senones, dans un village qui s'appelle Le Puy. Je suis également enseignante de photographie à Les Halles, à Épinal. Et dans cette exposition, je présente trois installations, dont une qui s'appelle « Retenir ». Et depuis que j'ai su qu'on avait cette proposition d'exposer ensemble, j'ai engagé un travail que je cherchais à engager depuis plusieurs années, à savoir je voulais m'intéresser aux structures en bois qui restent le long des routes et des nationales et qui sont, il s'agit des structures de bois qui doivent supporter des messages en fait, ou que ce soit des messages publicitaires ou des messages plus de l'ordre de la revendication. Et sont souvent des structures qui restent dans le temps mais dont les supports ou en tout cas les images qui viennent les recouvrir se changent, se modifient. Et voilà, et j'avais envie d'utiliser ces supports ou en tout cas de commencer à les répertorier et en gros de pouvoir inventer un système qui puisse permettre de venir accrocher les images que l'on souhaite sur ces supports qui sont de différentes tailles, parce qu'il y a une législation, parce qu'on lit pas toujours les images avec du temps ou avec de l'attention quand on passe en voiture. Et donc voilà, j'avais envie comme ça de créer quelque chose qui permette aux spectateurs de jouer avec des images, donc ce sont, et en même temps de réfléchir à quelles sont les images qui nous entourent, qui nous environnent au quotidien. Du coup, c'est une installation avec trois supports qui sont magnétiques et toute une multitude d'autres images qui vont pouvoir se déplacer et venir rejoindre le support initial.
Comment ça se passe, la vie d'artiste, quand on est en zone rurale, à savoir ici, dans les Vosges ?
Ouais, ça, c'est une c'est un très grand sujet auquel je commence. Alors moi, ça fait un an et demi que je viens de m'installer. Avant, j'étais plutôt en Alsace et au sein d'un collectif. Donc c'est extrêmement différent parce que tu as une vie environnante et... Enfin, je veux dire une vie sociale environnante et professionnelle environnante qui te stimule. Et là, je travaille de façon plus isolée. Et par exemple, je commence à travailler avec l'association Helicop qui est à côté de chez moi. Donc c'est aussi une façon de changer en fait son rapport à la confrontation, les relations qui se créent, qui s'instaurent, et en fait il n'y a pas vraiment de règles ou de solutions prédéfinies à dire. C'est juste, je pense que les sujets quotidiens changent, évoluent, glissent lentement et se déplacent, tout comme nous on se transforme, ça se déplace en fait, voilà, tout simplement.
L'exposition ici s'intitule Ciel, ruisseau, racine. Alors dis-moi, comment est-ce que, quels sont les travaux que tu as décidé de présenter ou de créer pour être en osmose ou pour bien représenter l'exposition qui va se dérouler à la Lune en parachute?
Alors en fait, on a déjà commencé à réfléchir aux œuvres et aux pièces qu'on souhaitait présenter et les échos qu'on voulait faire entre ces différentes œuvres, entre nous-mêmes, du coup de créer des passerelles. Et c'est à partir de là que s'est créé et inventé et imaginé le titre, en fait. C'est en confrontant nos pièces, nos récentes recherches, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ces récurrences et que ces trois mots ont fini par se dessiner et prendre de la force et prendre de la place. Voilà. Et du coup, on a un peu fonctionné à l'inverse. Et à partir de là, par exemple, dans les vitrophanies qui sont positionnées sur les Velux en haut, moi, c'est extrait d'un travail sur... c'est vraiment une recherche liée à l'eau, à la présence de l'eau à travers les abreuvoirs et les fontaines dans les Vosges. Donc du coup, pour moi, c'était... En fait, dans chacun des travaux, il y avait vraiment des problématiques ou des récurrences qui nous traversaient tous, et notamment que ce soit au niveau de cette présence de l'eau, de ses différentes formes, de ses différents états, de sa présence dans le paysage, et surtout aussi sur la question de la racine, que ce soit dans nos différents travaux, ça se ressent et ça se répercute et ça se retrouve aussi à plein d'endroits de façon tacite ou plus éloignée, mais ça se retrouve et ça se répercute de l'un à l'autre.
Mais dis donc, Delphine, quand je lève le nez, je vois sur les Velux, il y a plein de couleurs. Raconte-moi, c'est ton travail ?
Alors oui, c'est une installation qui a été pensée véritablement pour le lieu, à savoir qu'il y avait cette présence des Velux qui, moi, m'intéresse. Parce que c'est un lieu de passage de lumière, parce que justement, il y a cette ouverture vers le ciel. Et en fait, j'ai décidé de travailler à partir de Polaroid que j'avais... transformé. Donc en fait, j'ai ouvert mes polaroïdes et c'était des polaroïdes qui représentaient le Rhône, et j'ai déplacé la gélatine qui est contenue à l'intérieur, et en fait j'ai modifié l'image en venant repeindre tout simplement à l'intérieur. Donc du format polaroïd qui est assez réduit, je l'ai agrandi et ajusté pour que ça corresponde au Velux et qu'on puisse avoir cet effet d'être sous l'image ou voire dans l'image et que la lumière puisse passer à travers.
Je suis Laurent Audelin, j'expose à la Lune en parachute dans l'exposition Ciel, Ruisseau, Racine.
Et Laurent, dis-moi, dans cette exposition, qu'est-ce que tu proposes ?
En fait, c'est pas moi qui propose, on est six artistes et ça fait 4 mois et demi qu'on dialogue entre nous pour proposer une expo cohérente et harmonieuse autour de la thématique de la vie, de la présence, de la considération du terrain, du territoire, dans ses appréhensions tangibles, donc le toucher, la matière concrète, et aussi dans ses appréhensions plus oniriques et poétiques, dans des échappées de diverses formes. Tant narrative que plus de l'ordre de la collecte et de la trace. Voilà, donc il y a des photographies, des céramiques, de la peinture murale, des propositions d'installations spatiales, du vitrail, de la vidéo, de la performance, de la collecte de matière sur le terrain, et du travail de la matière aussi. Des installations, des photographies, des objets qui s'animent, qui prennent vie par l'activation lors de performances. Voilà. Moi, plus personnellement, moi je travaille l'image mouvement, l'image vidéo, et le corps en mouvement que j'enregistre via la vidéo. Et je mets en mouvement des matières que je trouve dans les terrains que j'arpente. Et à travers ça, je fabrique des récits intuitifs qui apparaissent par eux-mêmes dans le travail du montage et dans le travail de la collecte.
Comme tous les artistes avec qui tu exposes collectivement, vous venez tous de Les Halles d'Épinal. Est-ce que vous avez été tous dans cette école en même temps ?
Oui, ça s'appelait l'ESAE à l'époque. C'était l'École supérieure d'art d'Épinal. Et aujourd'hui, c'est l'École supérieure d'art de Lorraine, site d'Épinal. Et on était là-bas ensemble. Pour 4 d'entre nous, on était dans la même promo, donc 2005-2008. Guillaume était la promo suivante, il est diplômé de 2009. Et Evelyse est diplômée de 2011, je crois. Mais en tout cas, Evelyse est venue quelques années après nous. Voilà, mais on s'est tous rencontrés à Les Halles ou via Les Halles.
Et de là, le contact est resté, en tout cas, entre vous pour...
Enfin, nous, on est amis, clairement. Mm-hmm. Donc, on ne s'est pas quittés depuis. Bon, plus ou moins, avec plus ou moins de proximité, mais on est très proches, ouais. Et c'est pour ça, quand la proposition a été faite d'organiser cette expo, ça a été assez facile de se dire, ben, on y va ensemble, parce qu'on a des... On a des traitements très différents de thématiques communes dans nos travaux. Voilà. Et ce qu'on cherche à ce à quoi on cherche à donner forme dans cette expo, c'est à cette thématique commune qui est l'égard à la vie présente, à sa fragilité, au fait qu'elle est en train de disparaître. Et on interroge aussi la potentialité de l'avenir. Qu'est-ce qui nous reste d'un avenir on parle d'un avenir affranchi dans le texte qu'on a écrit ensemble pour cette exposition. Voilà, l'idée c'est de, je crois, hein, c'est mon interprétation, c'est d'avoir de l'espoir au travers de matières simples mais nobles. Donc il y a l'eau, le bois, les végétaux si fragiles et desquels on peut forger des formes très riches. Je pense au travail de Guillaume Barborini. Comment tous ces assemblages peuvent générer ça c'est plus du coup mon travail, des formes de l'ordre du totem, de l'ordre de l'objet animiste qui charrie des interprétations plus de l'ordre du spirituel, mais du spirituel relié à la nature, au concret du monde et du fait que les humains sont en train de le détruire. Voilà, donc nous on essaye de s'affranchir de ça, justement, de cette société humaine autodestructive, pour dire que le monde est beau et qu'il faut qu'on en prenne soin. Et tous les six, on parle de ça dans nos travaux. J'ai pas parlé des travaux de Delphine parce que tu l'as interviewée juste avant, que je pense qu'elle t'en a parlé. Mm-hmm. Delphine, elle est photographe, elle a une approche pour le coup du terrain. Mais elle attrape les j'allais dire les détails, mais c'est pas que les détails. Elle attrape les formes dans le paysage qui sont des constructions et qui, par le cadrage, peuvent raconter des tas de choses. Bon, ça, c'est le boulot du photographe, quoi. Mais elle parle du territoire, des gens qui y vivent, des traces qui y restent, et de comment on peut l'animer, comment faire pour l'animer ou pour le réanimer. Je dis ça en regardant ces photographies d'encarts publicitaires en bois qui sont plus utilisés, qui sont désactivés. Elle les réactive avec des images qu'on peut venir coller dessus. Venez voir l'expo, ça va être chouette. Là, elle est encore en chantier, hein, on aura fini demain l'installation, mais ça va être beau. On est très heureux en tout cas de faire ça ensemble, de faire ici, de le faire maintenant. C'était une rencontre de tous ces paramètres qui fait que je crois, je touche du bois. Je crois que ça va être une belle expo et en tout cas nous on est contents. Ouais.
C'est tout ce que je souhaite. Et Laurent, dis-moi, toi tu prépares ou tu as proposé une installation tridimensionnelle, un tangramme je crois, en matériaux de récupération.
C'est pas un tangramme, mais c'est comme ça que je l'appelle en fait. C'est un travail... disons que c'est un processus, c'est super simple, en fait c'est une cabane, hein, pour le dire simplement. C'est des branches de bois assemblées, nouées, liées avec de la ficelle. Ficelle en fibre naturelle. Et en fait c'est un travail que j'ai démarré lors d'une résidence au Québec, où j'étais au bord d'un grand lac et j'ai ramassé des courts morceaux de bois de grève, de bois flotté, et j'ai assemblé des triangles, tout simple. La forme basique absolue, c'est quand on ne peut pas relier autre chose, enfin, pour avoir une forme qui ne soit pas une droite, c'est le triangle, c'est la base. Donc, j'avais fait plein de triangles, et je les ai assemblés en volume, et j'ai obtenu une forme un peu squelettique, un peu, entre l'abri précaire et le squelette d'un animal mythologique. Et c'est un processus que depuis je réactive parfois quand l'occasion se présente. Mais cette fois-ci, c'est plus du bois flotté, c'est des branches de tas de matières, différentes, de tas de végétaux différents, notamment la renouée du Japon, qui est une espèce invasive que personne n'aime à juste titre parce qu'elle est très dangereuse pour l'environnement dans lequel elle se déploie. Donc c'est au bord des cours d'eau en général. Mais c'est aussi un matériau formidable parce que quand on le coupe au bon moment, donc juste avant la floraison, au début de l'été, à la fin du printemps, On a des branches très très légères et en même temps très très solides, en tout cas solides dans le cadre du travail que j'en fais. Et qui ont des formes biscornues, c'est entre le roseau et le bambou, mais c'est très léger. Du coup, pour construire des formes qui vont être soit portées et mises en mouvement dans des gestes, soit suspendues, ce qui est le cas cette fois, c'est super pratique. Et d'un point de vue esthétique, plastique, c'est vraiment un matériau intéressant. C'est des grandes lignes droites, mais un peu biscornues. Et du coup, moi, je m'en sers comme de trait pour fabriquer des formes en volume qui deviennent des dessins en volume. Qui, selon le point de vue qu'on adopte sur cette forme, elle a vraiment une allure différente. Si on la regarde par l'arrière, par le haut, fonction de la direction du regard, elle prend. Et c'est aussi une forme qui est volumineuse, qui est très présente, mais qui est transparente. Du coup, elle est là sans être là. Des fois, elle disparaît, et des fois, elle est hyper présente. C'est ça que j'aime, en tout cas, moi, dans ce travail. Et donc je l'avais appelé Tangram à l'époque parce que c'était des triangles et que c'est le principe du puzzle chinois, des formes géométriques simples qu'on assemble de manière aléatoire et qui donnent des formes diverses et variées. Et donc ça, c'est connecté à des travaux vidéo, dont une série de 4 vidéos. Donc là, j'en présente juste une qui s'appelle Décharge, dans laquelle on ne voit pas du tout cette forme en bois, mais... Elle montre le lac dans lequel j'ai récolté le premier bois de ce travail. Aussi, 2 images, donc une grande noir et blanc qui est dans l'entrée, enfin dans l'espace principal de la Lune, qui s'appelle Elrond, où on voit flotter à la surface de l'eau une forme construite avec ce bois, et une autre qui s'appelle Nœud, qui est l'image qu'on a choisie, plutôt que mes confrères et sœurs ont choisi pour être l'image de com utilisée pour l'expo. Donc, en fait, c'est un cadrage sur l'un des nœuds de cette forme que j'avais construit au Québec et que j'animais à la surface de la rivière et du lac. Et donc, c'est un zoom sur l'un de ces nœuds. Voilà, donc on voit 6 branches qui se rencontrent et qui sont nouées par une ficelle de jute de manière très, très primitive, primaire, et qui reflètent le ciel à la surface du lac. On a trouvé ça, enfin je crois que c'est ce qui a fait que cette image a été sélectionnée pour être notre image pour cette expo. C'est le fait qu'il y a 6 branches qui sont reliées entre elles, comme nous 6 qui sommes reliés par cette exposition. Voilà. C'est une image très très, très très simple, en même temps très très parlante. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle est là.
On a toujours ce fantasme de la vie d'artiste, soit très riche, soit très pauvre. Alors bon, là, je fais un énorme cliché. Mais dis-moi, Laurent, comment ça se passe, ta vie d'artiste professionnel ?
Alors, moi, je ne suis pas un aficionado du terme professionnel. Je ne suis pas non plus un aficionado du terme amateur. ni l'un ni l'autre ne signifie quoi que ce soit à mes yeux. Alors, ce qui caractérise la vie de... Je sais pas, je dirais 90% des artistes aujourd'hui, c'est qu'on est précaire. On est très peu rémunéré on est mal rémunéré au sens où nos revenus sont très, parfois élevés, parfois inexistants. Et quand on fait la moyenne, en fait, c'est rien du tout. Et du coup, on doit puiser dans nos énergies personnelles pour continuer. Et c'est la précarité, c'est ça, c'est ne pas savoir ce que sera. Comment on va s'en sortir, notamment financièrement, dans les 6 mois qui viennent, quoi. Ou au-delà de 6 mois, on ne peut pas savoir. Du coup, c'est dur de s'engager, c'est dur d'être ancré quelque part. Et en même temps, c'est ce qui fait, pas cette précarité, mais le fait d'avoir une espèce de souplesse à l'endroit de nos projections, qui fait que la création peut exister, je crois. Mais néanmoins, c'est vraiment compliqué. Actuellement, il y a une proposition de loi qui est portée par le SNAP-CGT à l'Assemblée nationale, enfin présentée par des députés à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'instauration d'une continuité des revenus pour les artistes auteurs, une espèce d'intermittence, pour le dire vite, qui nous permettrait d'avoir un revenu constant. Moi, je vis avec le RSA, par exemple, depuis 15 ans. C'est mon seul revenu constant, c'est 500 euros par mois. J'ai parfois des droits d'auteur, parfois des droits de monstration, mais on n'a pas de revenus à proprement parler, sauf si on a un job alimentaire à côté, qui peut être lié à l'art et lié à notre pratique, mais qui n'est pas notre pratique et qui n'est pas une solution pour exister avec l'art. Et la vision romantique de l'artiste est un énorme problème parce que c'est pas faux qu'on ait des romantiques et qu'on a une vie un peu romantique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est dans la galère H24. Et ça, des fois, moi, personnellement, j'arrive à le gérer, pas de problème. Mais voir, ça me nourrit, parce que je suis très libre, je me sens très libre. J'ai pas de thunes, mais je suis très libre, j'ai du temps, en fait. Et ce qui est important pour les artistes, c'est d'avoir du temps et de l'énergie. Et moi, c'est ce que je privilégie. Voilà. Néanmoins, quand on fait appel à moi ou à mon travail pour des expositions ou des publications ou des interventions, enfin, quand on fait appel aux artistes, quoi. C'est alors on est rémunéré, hein, y a pas de doute. C'est simplement qu'on ne l'est pas correctement. Et c'est pas à cause des gens qui nous accueillent, hein, c'est à cause d'un système qui est instauré. C'est plus une dimension de l'ordre du politique et du fait qu'on n'a pas le statut qui nous permettrait d'avoir une continuité des revenus, justement. Du coup, en général, les associations ou les institutions qui nous accueillent font leur maximum. Et on en est conscient, notamment vis-à-vis des associations culturelles qui sont en grosse galère, elles aussi, actuellement. C'est très très grave ce qui se passe au niveau de la culture, parce que si on finance pas la culture via l'argent public, j'insiste là-dessus, l'argent public doit financer la culture, parce que sans la culture, il n'y a plus de société, en fait. Et les artistes sont à la base de ça, et c'est eux on les considère pas très bien à cet endroit-là, et on considère pas non plus très bien les diffuseurs, donc les associations notamment. Il faut subventionner les associations culturelles, il faut subventionner les artistes, c'est super important parce qu'on peut pas faire autrement. Et s'il n'y a plus d'artistes, enfin, en fait, il y aura toujours des artistes, mais il faut montrer leur travail, en fait. Si on ne peut pas montrer notre travail, on a du mal à savoir pourquoi on bosse, en fait. Et comme dit, c'est un travail qui n'est pas rémunérateur, mais qui prend énormément d'énergie. On bosse tout le temps, en fait. On bosse énormément. Pour revenir à cette exposition, là, ça fait vraiment 4 mois qu'on est en charge, au sens propre du terme, chargé de quelque chose, en charge de cette expo. Et on discute toutes les semaines, on a fait des réunions toutes les semaines, on a remis les choses en place. Là, ça fait 10 jours. Moi, je suis arrivé un peu en avance parce que j'ai fait cette installation in situ, Clément aussi, avec sa fresque. Ça fait... Là, on est dans l'espace concret depuis une dizaine de jours, et puis du coup, tout se modifie. Et c'est formidable. Enfin, moi, j'adore. Hein, c'est ça aussi le travail de l'artiste, c'est l'adaptation, et c'est le jeu avec les formes, avec l'espace. Donc moi, j'adore ça. Ce qui est un peu stressant, là, c'est qu'on aurait 2-3 jours de plus. Je pense que ça nous permettrait d'être... Mais bon, les contraintes sont là, c'est heureusement qu'elles sont là aussi. Voilà, en tout cas, la lune en parachute, c'est vraiment un bel... Enfin, la plomberie, plutôt, enfin, dans l'espace dans lequel se situe la lune en parachute, c'est un espace hyper intéressant, mais hyper contraint. Enfin, il y a plein de contraintes un peu partout, qui peuvent devenir des amis. Moi, j'aime bien me faire des contraintes, des amis. Mais c'est un gros boulot. On est tous un peu épuisés aujourd'hui, en fait, physiquement. Mais on est contents.
Tu as parlé de contraintes et j'ai envie de rebondir un petit peu sur l'exposition précédente, alors non pas celle des lycéens, mais des étudiants de l'ESAL qui étaient aussi, à l'heure où j'ai déambulé avec mon micro, en plein montage. Est-ce que l'urgence avant l'échéance de l'exposition est aussi un vecteur de création ou à quelque chose qui puisse sublimer ou porter ? En fait, dans la création artistique.
Sans doute. oui, même c'est certain. C'est à ça que servent les échéances. Je pense que les artistes, on est avant tout des rêveurs, et les échéances ou les contraintes nous permettent de concrétiser le rêve et de le rendre tangible. Et sans cette contrainte, on n'arrête pas de rêver. Et c'est super important de rêver. D'ailleurs, moi, c'est une des choses qui m'a manqué, c'est que j'ai pas eu le temps de rêver à cette exposition avant d'être dans le concret, parce qu'on a dû être dans le concret, au moins en termes de réflexion, directement. C'est une chose qui m'a beaucoup manqué. Mais les échéances, les timings et les rushs sont des moments précieux, en fait. Heureusement, c'est pas toutes les semaines comme ça, c'est pour ça qu'on y arrive. Moi, j'adore ça. J'adore ça jusqu'à... Là, on est ensemble, on est nombreux et on est des amis, donc ça va. C'est des moments de stress quand même, ça peut être... En fait, cette période actuelle est une période très très riche en termes d'émotions, en tout cas personnellement, et du coup, c'est vrai que des fois, faut trouver des canaux pour... Et là, à 6, on arrive à s'auto-porter, s'auto-gérer, parce qu'on se connaît bien. Du coup, ça va. Et le rush est pas désagréable dans ce cadre-là. Puis on est super bien accueillis, donc ça va. Mais ouais, le c'est plus de l'ordre de l'excitation que du. Ouais, c'est une contrainte excitante le timing. Après, je suis le premier à râler quand j'y suis. Hein. Mais en vrai, ça permet de terminer, en fait, tout simplement. C'est ce qui permet de terminer, d'aller au bout. Alors, on tire sur la corde, mais à la fin, de toute façon, à la fin, demain, c'est 19h, l'heure du vernissage, il faudra que ce soit calé, puis ça le sera. Et puis, en vrai, il n'y a que nous qui savons là où on n'a pas fini, etc. Les visiteurs, les regardeurs, les gens qui voient les travaux, qui voient les expos, ils savent pas. Enfin, moi, je fais de la vidéo, principalement, et le montage aussi, c'est ça. Tout ce qu'on jette au montage, les gens, ils le voient pas, quoi. Et là où on a hésité, là où on a fait des erreurs, là où on a mis une grosse rustine, mais que ça se voit pas trop, ils le voient pas. Je pense que tu connais ça avec le son. Et du coup, nous, on connaît tout tellement en détail et en précision que des fois, on se dit, oh non, c'est pas fait, c'est mal fait, alors qu'en fait, c'est très bien. Et c'est un peu riche de ça, les accrochages d'expo. C'est plein que des moments comme ça qui s'enchaînent. C'est super excitant, quoi. Et c'est un peu. Enfin, moi, c'est un des trucs que j'aime le plus dans cette activité-là, en tout cas. Ouais.
Je t'ai entendu un tout petit peu plus tôt parler des résidences ou d'une résidence que tu as fait au Canada. Est-ce que tu as voyagé à travers le monde ?
Le Canada, c'est l'endroit le plus lointain dans lequel je suis allé. Après, moi, je considère que le voyage est pas. J'ai voyagé en Europe beaucoup, mais ouais. Le Canada, c'est là où je suis. Moi, j'ai tendance à dire qu'on peut voyager directement tout près de chez nous. Le voyage, il se situe plus dans la manière dont on regarde les choses et dont on ressent les territoires dans lesquels on se trouve. Et les voyages, ils peuvent se faire sans avoir à aller forcément très loin, je crois. Et en tout cas, les résidences, du coup, pour les plasticiens, ça permet d'avoir des... On parlait du rush de l'exposition là juste avant, c'est un peu le même principe dans le sens où quand on est artiste, on manque de cadre pour le meilleur, mais aussi pour le pire, dans le sens où quand on n'a pas de cadre, on ne sait jamais quand on termine. Et la résidence donne un cadre. Donc un cadre d'accueil, un cadre de travail, enfin ça dépend, il y a plein de résidences de plein de formes différentes, mais celle que moi j'ai pu faire, il y avait toujours un atelier, il y avait toujours un logement, donc ça fait deux choses hyper importantes. Il y avait surtout, moi, ce qui est important dans mon travail, c'est que je sois dans un espace, un environnement dans lequel je puisse voyager, justement, que je puisse arpenter en marchant beaucoup, en tout cas par le corps, arpenter un espace, récolter des matières, récolter des images et ensuite assembler tout ça, soit via la vidéo, soit via la sculpture, enfin l'assemblage en volume. Et du coup la résidence donne un contexte qui est hyper important pour les plasticiens qui ont une pratique assez similaire à la mienne. Par exemple, quelqu'un qui, mettons un peintre qui a son objet de peinture qui nécessite pas d'être dans un environnement différent, peut-être que la résidence pour lui, ce qui va être positif dans la résidence, c'est l'atelier, par exemple. Moi, ce qui est positif, c'est le cadre et le lieu, l'environnement autour. Donc au Canada, c'était ça. J'étais au bord du lac Saint-Jean, qui est un immense lac auprès de la ville de Chicoutimi. Et c'est le lac duquel émerge la rivière Saguenay. Et j'ai travaillé autour, dans cette zone, là où l'émissaire du lac, donc le cours d'eau qui s'échappe du lac, émerge. Et donc à cet endroit-là, ils ont posé, il y a 150 ans, la première centrale hydroélectrique du monde. Et ça a complètement perturbé et modifié l'environnement, le paysage. Et j'ai travaillé sur ça, sur ce paysage qui semble être naturel et merveilleux, et qui en réalité est contraint par l'homme. Et à travers cette forme d'abri primaire que j'ai construit avec le bois trouvé sur les berges, j'ai voulu parler de ça, du rapport que les humains occidentaux entretiennent avec, ou plutôt n'entretiennent plus avec leur environnement. Et c'est ce qui anime, pas depuis, hein, d'ailleurs c'était déjà le cas avant, mais particulièrement depuis mon travail. Voilà. Et du coup, dans l'exposition, il y a aussi deux autres films qui sont présentés dans les espaces vidéo, là, pour le coup. Un que j'ai construit suite à une résidence en Pologne, à Gdansk, au bord de la mer Baltique, qui s'appelle Chagrin Rouge, et qui traite également d'une découverte d'un espace, pour le coup, industriel, en tout cas anthropisé, au bord du littoral de la mer Baltique, avec un personnage emblématique, animiste, un personnage animal, un cerf, un oiseau-cerf qui déambule, qui dérive dans l'espace, l'espace anthropisé et qui se retrouve dans des situations absurdes. Et, enfin, je crois que le film traite de ça, de l'absurdité d'une présence un peu mythologique comme ça, dans un espace contemporain. Et une autre vidéo qui s'appelle Pilgrim Plexus, qui là n'est pas issue d'une résidence, mais c'est plutôt une résidence que je me suis fabriquée moi-même. C'est un récit qui a émergé d'un petit segment que j'ai un segment de randonnée, de marche que j'ai fait sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre le Puy-en-Velay et Cahors il y a 6 ans. J'ai marché pendant 30 jours et j'avais ma caméra seulement avec moi et j'ai enregistré des petites séquences où j'active mon bâton de marche, où je dialogue avec mon bâton de marche. C'est une rencontre avec un bâton, des discussions avec un bâton et puis un conflit avec un bâton. C'est un film qui est long, ça dure 2h06. Et j'avais pas réussi à le monter. Ça fait du coup 6 années qu'il est là, qu'il m'habite, mais j'arrivais pas à lui donner forme. Et l'année dernière, je me suis dit, c'était mon défi pour les mois qui viennent de le terminer. Et du coup, quand on m'a proposé l'expo ici, je me suis dit, je vais profiter de l'expo pour terminer ce film. Et en tout cas, pour lui donner, c'est pas pour le terminer, mais c'est pour lui donner une forme qui soit sa forme. Du coup, c'est long, mais c'est en fait, c'est 9 vidéos qui s'enchaînent. 9 séquences qui, au fur et à mesure, racontent cette rencontre entre moi, ce territoire du chemin et ce bâton. Et donc, c'est complètement inédit, je ne l'ai jamais montré à personne, parce que je viens juste de finir le montage il y a quelques jours. J'ai des grosses galères au niveau du son, notamment, ça, j'ai pas terminé, mais ça, justement, je pense que le public va pas forcément s'en rendre compte, on va voir. Mais en tout cas, je suis curieux de voir ce qui va se passer, justement. C'est aussi un lieu, c'est ça l'exposition, c'est pour ça que c'est important que les artistes puissent exposer, c'est que c'est un lieu pour nous d'expérience. Et l'expérience, c'est super important parce que c'est ce qui génère la création. Il n'y a pas de création sans expérience. Et moi, ça, c'est un autre problème pour les plasticiens. C'est contrairement aux artistes du spectacle, par exemple, c'est qu'on n'a pas de retour immédiat. On a rarement des retours en réalité. À part des gens du sérail, de l'art contemporain, on a rarement des retours sur nos travaux pour connaître l'expérience partagée, pour savoir ce que le public a ressenti. Et moi, c'est ça que j'attends beaucoup quand je peux participer à une expo, c'est d'avoir ou de percevoir ce qui se passe chez les gens qui regardent les films. Chagrin Rouge est le film que j'ai fait à Gdansk, que je l'ai montré à la fac d'art plastique de Metz il y a 2 ans. C'est la première fois que je le montrais aussi. J'ai eu des retours des étudiants qui étaient extraordinaires. Et ils ont vu dans le film des choses que je n'y avais pas mis consciemment. Et du coup, après, moi, je portais un autre regard sur mon propre travail. Et c'est toujours troublant et hyper intéressant quand ça se passe. Et voilà, donc là, je suis un peu curieux de voir comment les gens vont réagir à ce film qui a une forme un peu aride comme ça. Et on va voir.
Dans le tumulte du montage, entre les outils et les éclats de voix, quelque chose se construit. Une exposition, bien sûr, mais aussi des trajectoires, des liens, des histoires qui continuent de se tisser. 15 ans après leur passage à Les Halles d'Épinal, ces artistes tracent des chemins différents. Certains enseignent, d'autres créent au quotidien, tous poursuivent, à leur manière, ce dialogue avec le monde. Et peut-être que Ciel, Ruisseau, Racine racontent aussi cela. Ce qui circule, ce qui évolue, ce qui reste. Mais ce reportage n'en est qu'un premier fragment. Les échanges ont été nombreux, riches, et ils ne pouvaient pas tenir en une seule rencontre.
Fragment d'art sur Radio Gémozo. Avec nous.